Kezako.
Kezako.
Et vous trouvez ça drôle?
Kezako?
Ah non, 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 moi non plus.
Kezako, Marine Gabory, Mathilde François, sur Sun.
Bonjour et bienvenue dans Kezako, l'émission qui décortique les mots. Avez-vous un accent? Alors on connaît tous l'accent chantant de Marseille, celui du Nord avec ses expressions associées. Peut-être utilisez-vous même des mots de patois qui vous rattachent directement à votre région d'origine, des bretonismes ou autres assertions germanophones alsaciennes. Mais est-ce que vous savez ce que c'est la glottophobie? Eh bien justement, nous sommes allés vous poser la question.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la glottophobie?
Aucune idée, absolument pas. Il y a peur de quelque chose, mais de glotto, la glotte. Ah, les gens qui ont peur de la pomme d'Adam des gens, ça les stresse.
Moi, je pense que c'est les gens qui ont peur de tout ce qui est glauque. Par exemple, quand tu vas dans un endroit, que c'est bizarre, t'as peur et c'est glauque et du coup, t'es glottophobe.
C'est quand t'aimes pas avaler.
Absolument pas, je ne sais pas ce que c'est la glottophobie. Peut-être est-ce que c'est parce qu'on mange de trop, mais je ne sais pas. Quelle est la glottophobie? Non.
Glottophobie, c'est la phobie des langues étrangères.
Retour en studio avec Martha Donazan, maître de conférence, et Jérémy Pasquereau, chargé de recherche au laboratoire de linguistique de l'Université de Nantes. Bonjour.
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 Alors, la glottophobie, Kezako?
Alors, la glottophobie, c'est un terme qui a un peu été médiatisé récemment parce qu'il a été remis un peu au goût du jour par un sociolinguiste français, Philippe Blanchet, qui a écrit un livre en 2016 qui a eu un certain succès. Mais c'est un terme qui décrit quelque chose qui a toujours existé, en fait. Et la glottophobie, c'est une discrimination qui est basée sur la langue. Par cela, je veux dire la langue, la grammaire, par exemple, la variété linguistique, mais ça peut être aussi tout simplement un accent. Et la discrimination linguistique, puisque la langue est portée par les locuteurs, ça traduit évidemment dans une discrimination des locuteurs de la langue, qui sont souvent stigmatisés ou identifiés avec un rôle social à cause de leur accent ou de la langue qu'ils parlent.
Mais alors la langue française, elle s'est progressivement imposée comme la langue nationale en France, sauf qu'auparavant, on parlait des dizaines de langues en France, certainement plus. Est-ce que la glottophobie, c'est une conséquence de l'avènement d'une langue nationale unique?
Oui. En fait, c'est une conséquence, mais c'est aussi la cause. Alors, pourquoi c'est une conséquence? Parce que plus vous avez d'homogénéité, plus finalement, quelque chose de différent va être visible. Oui, donc si vous n'avez qu'une seule langue très homogène, eh ben, la moindre variation va être visible si vous avez supprimé toutes les autres variations. Mais c'est aussi une cause, puisque évidemment la glottophobie, la discrimination envers d'autres variétés de langue que la sienne ou d'une variété qu'on juge comme étant plus prestigieuse, eh bien, va mener finalement à vouloir cette homogénéisation, va amener cette homogénéisation, excusez-moi.
Est-ce qu'on peut dire que la langue, du coup, est politique, c'est-à-dire qu'il y aurait des langues de dominés et des langues de dominants?
Bah oui, ça, malheureusement, c'est vrai. C'est vrai aussi dans un pays qui n'est pas un pays colonial, comme la France métropolitaine, parce que il y a quand même une langue qu'on a érigée en France. Moi, je parle de la France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, qu'on a érigée comme standard pour des régions politiques et sociales, c'est-à-dire qu'on a voulu créer effectivement une langue commune dans un paysage beaucoup plus fragmenté linguistiquement. Et du coup, c'est devenu une langue qui s'est imposée sur les autres, sur les langues qu'on appelle maintenant les langues régionales. Alors pourquoi régionales? Parce qu'effectivement, la langue standard est la langue de l'Île-de-France, la langue de Paris. Et le reste, c'est la région. Donc il y a déjà ça, il y a une vision politique de la chose.
Le fait que la langue qui se soit imposée ou le parler de la langue qui se soit imposée, ce soit celui de l'Île-de-France, c'est parce que les organes de décision, les organes de pouvoir étaient à Paris?
Exact, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si le roi de France, si la cour, si les organes de décision avaient été à Nantes ou étaient dans le Poitou ou dans le Pays Basque, on aurait certainement eu une langue standard très différente de celle qu'on a aujourd'hui.
Mais là, on prend l'exemple spécifique de la France. Ça veut dire que la glottophobie, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France ou c'est quelque chose de beaucoup plus universel?
Non, c'est... Ce n'est pas une spécificité française. Mais en France, on le voit plus, enfin, plus que dans d'autres pays, peut-être pour des raisons justement historiques, hein, parce que la France est un État unifié et centralisé depuis très longtemps. Mais c'est quelque chose qui se passe dans tous les pays, comme la discrimination généralement. C'est quelque chose qui, malheureusement, semble consubstantiel un peu à l'être humain. Donc, il y a quand même cette vision de ce qui est différent, que ça peut être la langue, ça peut être autre chose. Et du coup, on le trouve dans beaucoup de pays. Ça, c'est sûr.
Vous avez des exemples à nous donner dans d'autres pays, peut-être ?
Aux États-Unis, vous avez une variété qui est vraiment très discriminée. C'est la variété qui est souvent associée avec la façon de parler des Afro-Américains.
Et tout à l'heure, vous nous disiez même qu'aux États-Unis, il y avait une langue qui avait presque été créée toute pièce.
Oui, alors c'était surtout vrai dans les années... au siècle précédent, dans les années 50 et après, qui était l'accent mid-atlantique, qui était le natif pour personne, mais qui était l'accent standard pour les médias.
En traitant défavorablement des personnes qui parlent une langue régionale ou bien qui s'expriment avec un accent, il n'y a pas un peu également une uniformisation de notre langue et une manière de parler qui devient de plus en plus standardisée? Je pensais par exemple au cas des journalistes TV ou radio qui ont un parler qui est très symptomatique mais qui est quand même aussi très uniformisé.
Est-ce que ces journalistes, finalement, ils ont perdu complètement leur accent ou ils le modulent dans des situations particulières? Ça, je ne sais pas, parce que je ne peux pas savoir. Donc, ce n'est pas forcément une uniformisation qui est définitive, probablement. Mais c'est vrai qu'il manque, dans le paysage médiatique français, en tout cas, une appréciation des différences. Et c'est quelque chose qui a été décrié hein, par les journalistes eux-mêmes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un livre qui a été co-écrit par deux journalistes, dont un, c'est Jean-Michel Apathy. Vous voyez qui c'est quelqu'un qui a un fort accent du Sud-Ouest et qui a écrit justement un livre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le titre c'est « J'ai un accent et alors ?» qui veut justement porter à l'attention du public cette problématique. Le fait que très souvent, dans les médias, les journalistes ou les personnes qui interviennent à l'antenne sont obligés de limer leur accent d'origine et de l'uniformer à l'accent qu'on appelle l'accent neutre, mais qui a un accent aussi, parce qu'il n'existe pas un accent neutre, en fait.
Et comment est-ce qu'on peut lutter contre la glottophobie ?
C'est une grande question. En fait, pour vraiment l'éliminer, il faudrait s'attaquer à la cause du problème. Or, la cause du problème, c'est, comme l'a dit Martha, en fait, c'est très certainement ça vient certainement d'une caractéristique profonde humaine. Donc, on n'a pas vraiment de façon de lutter contre ça. Par contre, oui, on peut essayer d'en diminuer les conséquences et à chaque génération d'essayer d'expliquer aux gens que finalement, la manière dont quelqu'un parle n'a pas de lien avec son potentiel intellectuel. Il y a vraiment une décorrélation entre les deux. Donc.
Et vous deux, en tant que linguiste, est-ce que vous considérez que le propre d'une langue, c'est d'évoluer, de se réinventer, ou bien votre intérêt, c'est plutôt d'aller étudier une langue un peu originelle, un peu plus épurée? C'est le bon terme.
Alors, je vous réponds tout de suite. Pour nous, la variation, c'est ce qui fait l'âme de notre métier, en fait. Et ce qui fait, effectivement... Alors, c'est impossible qu'il n'y ait pas de variation dans la langue. On a participé avec Jérémy à un podcast sur cette question il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, il faut expliquer que la langue, par sa nature, elle évolue, elle change tout le temps. Parce que les locuteurs l'utilisent de façon différente. Même dans un même endroit, génération après génération, donc dans le temps, mais surtout, et c'est ce qu'on voit avec en parlant de la glottophobie, surtout dans l'espace. Il n'y a pas une variété qui peut être homogène dans un espace donné. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant la variation, on sait beaucoup plus de choses sur la langue que si on regardait juste une langue à un moment donné en le considérant la langue épurée, alors qui est un concept qui n'est pas scientifique, évidemment, mais une langue unique, disons.
J'ai une petite question bonus pour vous. Comment vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet-là?
Mais alors, est-ce que je peux répondre à la question en complétant un peu...
Bien sûr que vous avez le droit.
Voilà, non, parce que, en fait, c'est les deux voilà, réponses sont liées. Moi, ce qui m'intéressait, voilà, pour ma part, dans la linguistique, c'est de comprendre, en fait, Comment ça se fait que les langues sont si différentes en apparence, alors qu'elles émanent toutes, en fait, du cerveau humain, qui en fait, est le même, en fait, finalement, qu'on soit né, au Mali, au Japon, au Canada. On a tous le même équipement, anatomique, quoi, le même cerveau, la même bouche, les mêmes organes phonatoires. Pourtant, les langues ont l'air si différentes, donc comment ça se fait? Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a vraiment intéressé. Et je complète la réponse qui a été donnée à votre question précédente, parce que nous, en tant que linguistes, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui sous-tend toute cette diversité, en fait. Donc, on utilise les langues comme des manifestations de l'esprit humain pour essayer, en fait, d'arriver, de reconstruire la machine, c'est-à-dire notre cerveau, la partie du cerveau qui permet de produire toute cette diversité.
Vous, Martha, comment est-ce que vous êtes arrivée à devenir linguiste?
C'est un peu pour le même biais, c'est-à-dire que j'ai exactement le même intérêt que Jérémy. On travaille sous des langues différentes, mais c'est un peu la même démarche. Et ce qui m'a toujours intéressée, c'est justement très vite, en réalité, quand j'étudiais les langues classiques même, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très récurrentes dans des langues très différentes. On étudiait le grec ancien ou le latin ou avec la langue que je parlais, l'italien, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses quand même qui revenaient tout le temps et j'ai trouvé ça fascinant. Donc c'est ça qui m'a un peu stimulée. Et c'est ce qui me stimule toujours, en fait, c'est de m'attacher à des questions très, très larges, comme par exemple comment on exprime le temps, comment on exprime les liens de cause à effet, à travers des langues très différentes. Les grammaires sont très différentes, mais à la fin, conceptuellement, on retrouve toujours les mêmes mécanismes et les mêmes... voilà.
Et c'est vrai qu'en fait, la variation est assez incroyable, on ne peut pas s'imaginer... le nombre de façons qu'il y a, en fait, de dire la même chose. Si on se cantonne aux langues, finalement, européennes, il y a tellement de façons, c'est assez incroyable.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais dire dans aucune langue. Et donc ça, c'est encore plus intéressant.
Comme par exemple?
Non, il y a des constructions grammaticales, par exemple, qu'on ne trouvera jamais. Et on le sait maintenant, et on peut le prédire, en réalité. Et ça, c'est surtout ça qui nous donne un aperçu de notre façon de raisonner, de notre logique.
Merci beaucoup, Martha. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces échanges très riches, hein, qui nous donnent envie, d'ailleurs, de poursuivre les échanges. Hélas, on est tenu par le temps. En tout cas, tout ça vient éclairer nos a priori et notre rapport à la langue qui nous lie et qui nous distingue, du coup, par les accents. Et on continue justement en musique avec les Cow-boys fringants et leur accent québécois bien reconnaissable, avec leur chanson « L'Amérique qui pleure ». L'Amérique qui pleure des Cow-boys fringants, c'est tout de suite sur Sun.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon manie. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison,
que je parque mon vieux camion. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais, n'empêche que moi aussi, je roule tout seul dans la nuit. Je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles. Et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
Voilà, Kezako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. Et rappelez-vous, comme l'a dit le sociolinguiste dont nous parlions justement durant l'émission Philippe Blanchet, rejeter un accent c'est toucher à l'identité de l'être. Bonne semaine sur Sun.
Kezako, en replay et en podcast sur mySun et leSonUnique.com.